Juliette Rangeval.
Bonjour, l'Europe peaufine sa réponse face au Covid-19. Couvre-feu, confinement. Côté allemand, le gouvernement a fait de l'aération des bâtiments sa quatrième recommandation officielle pour lutter contre la propagation du virus. Après le respect des distances, les règles d'hygiène comme la désinfection des mains et le port du masque. David Philippot est avec nous à Berlin. Aérer, David, c'est devenu un geste barrière comme les autres.
Oui, la chancelière Merkel a justifié cette décision d'une façon très simple. Voilà une mesure pas chère et que tout le monde peut comprendre et appliquer. Cela vaut en privé. Chacun est incité à faire des courants d'air dans son domicile au moins une fois par jour. Mais évidemment, c'est là où il y a les plus fortes concentrations de personnes que cela prend tout son sens. Fenêtres ouvertes, autant que possible, dans les magasins, les entreprises, les bureaux et bien sûr les écoles.
Et là, David, il y a un protocole très strict, tout est organisé.
Oui, comme on a régulé le port du masque dans les bâtiments après les vacances d'été, il y a maintenant des règles très précises à suivre pour empêcher la concentration d'aérosols dans les salles de classe. Il faut les aérer au moins 3 minutes toutes les 20 minutes. Résultat, ici dans le Land de Berlin, juste avant le début des vacances d'automne, les parents d'élèves ont reçu une lettre des autorités sanitaires les priant de profiter des congés pour acheter des vêtements chauds, des bonnets, des mitaines, voire des plaids pour les jambes et aussi des thermos. En Rhénanie, il y a même une école qui a fait un achat en gros de bouillottes. Alors tout ça fait un peu anecdotique, on se dit que c'est du bricolage, mais il faut savoir que parallèlement, le gouvernement a également lancé un plan national de modernisation des systèmes d'aération des bâtiments publics. On parle là de grands travaux dans les musées, les universités, etc., avec à la clé 500 millions d'euros d'aide publique. Mais en attendant que les travaux soient faits, les Allemands vont pouvoir tester l'un de leurs proverbes préférés, eux qui adorent dire qu'on peut sortir par tous les temps, qu'il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements. Ils vont pouvoir vérifier si ça marche aussi en intérieur.
Merci David, à bientôt. Direction Khabarovsk, c'est dans l'extrême-orient russe. Depuis le 9 juillet, la population manifeste contre l'arrestation de l'ex-gouverneur Sergueï Fourgal. C'est l'Européen de la semaine de Sofia Katsenkova.
Notre choix, c'est Sergueï Fourgal. C'est le slogan que scandent les manifestants de Khabarovsk, la plus grande ville de l'extrême-orient russe, depuis plus de 3 mois. 100 jours que leur gouverneur, Sergueï Fourgal, a été arrêté. On l'accuse d'avoir commandité le meurtre de plusieurs hommes d'affaires au début des années 2000, quand il faisait fortune dans la métallurgie et le bois. C'est en 2005 que le médecin de formation reconverti en homme d'affaires rejoint le parti nationaliste d'extrême droite, le LDPR. Pour Fedor Krashenikov, politologue et spécialiste de la politique intérieure russe, son entrée en politique était motivée par des intérêts principalement commerciaux.
Sergueï Fourgal est un homme d'affaires typique de la région. Il a été choisi comme le représentant de l'élite économique, avec pour but de faire du lobbying en faveur de ses intérêts économiques. C'est pour cela qu'il a rejoint le parti LDPR, en achetant une franchise pour pouvoir se présenter à Khabarovsk. Et Fourgal a été désigné comme chef de file afin de faire avancer les intérêts de ce groupe.
En 2018, Sergueï Fourgal est élu gouverneur de la région. Il bat le candidat du parti de Poutine, la Russie unie, avec 70% des voix. La popularité de Sergueï Fourgal témoigne du ras-le-bol des habitants à l'encontre d'un gouvernement situé à 7 fuseaux horaires et éloigné des réalités locales. Pour Fedor Krashenikov, Sergueï Fourgal a bénéficié de 2 choses. L'exaspération de la population vis-à-vis de Moscou et de l'absence de notoriété des autres candidats.
Les électeurs ont choisi Fourgal car il était le plus connu. Ça faisait plusieurs années qu'il était en politique, mais on ne peut pas dire pour autant qu'il était adulé. C'est juste que le gouverneur sortant du parti de Poutine était extrêmement impopulaire. Au final, Fourgal a démontré qu'il n'était pas un trop mauvais politique, ce qui n'est pas surprenant. Fourgal était transparent, accessible, allant au contact des gens, au contraire des gouverneurs classiques. Et cela a été très apprécié par les habitants. Mais après, il a commencé à mettre en avant ses propres candidats et non ceux du parti de Poutine. C'était son gros problème. Et Moscou a décidé de se débarrasser de lui.
Alors coup politique ou réel passé criminel? Avant de devenir gouverneur, Sergueï Fourgal a aussi été député à la Douma pendant plus de 11 ans. Que la justice s'intéresse à lui désormais témoigne d'une manœuvre politique selon ses partisans. Mais pour l'un de ses principaux adversaires politiques qui n'a pas souhaité être cité, Fourgal n'a rien d'un opposant à Poutine. Sous-entendu, le parti LDPR coopère discrètement avec le Kremlin et Fourgal aurait été trahi par son propre parti. Françoise Dosset, directrice des études à l'EHESS.
Là où les choses se compliquent, c'est lié au fait que le gouverneur par intérim qui remplace Fourgal est lui aussi un membre du LDPR. Et on sait aussi toute l'ambiguïté des relations entre le LDPR et Russie Unie, puisqu'au niveau fédéral, il y a tout de même des formes de coopération entre ces deux formations politiques. Et d'une certaine façon, c'est ce qui s'est joué là avec le remplacement de Sergueï Fourgal par un autre gouverneur choisi avec l'accord des autorités à Moscou et avec l'accord du LDPR, donc Mikhail Dektaryov, qui arrive à Khabarovsk, mais qui n'a pas la popularité de Sergueï Fourgal.
Sergueï Fourgal nie en bloc les accusations. Les manifestants demandent à minima qu'il soit jugé équitablement et à Khabarovsk. Le bras de fer avec le pouvoir central n'est pas prêt de se terminer.
C'est un drôle d'ovni, un monument communiste complètement délabré, mais qui est très connu dans le monde entier, notamment des amateurs d'urbex, d'exploration urbaine de sites abandonnés. L'ovni de Buzluja, officiellement la maison du parti communiste bulgare, fait souvent partie des classements des monuments communistes les plus impressionnants. Aujourd'hui, une équipe internationale menée par une jeune architecte bulgare a commencé à restaurer les mosaïques qui recouvrent le bâtiment d'Amir Vodeninchakov.
Le monument est gigantesque, construit entre 1974 et 1981 au beau milieu de la chaîne des Balkans. Il surplombe la vallée des Roses et son chef-lieu, la ville de Kazanlak. C'est le cœur de l'industrie de la rose qui alimente toutes les grandes parfumeries du monde. C'est également une région extrêmement riche en histoire, des grandes batailles de libération contre l'Empire ottoman aux tombes thraces. C'est également ici qu'est fondé le Parti social-démocrate en 1891. Il deviendra plus tard le Parti communiste. C'est cet événement que le monument cherche à immortaliser.
Ce monument a été bâti grâce au travail et aux moyens fournis par la nation entière. La nation entière qui a cimenté son amour, sa gratitude envers l'héroïsme du Parti communiste bulgare, mais aussi envers les combattants qui ont payé de leur sang notre liberté et notre droit à l'égalité sociale.
Aujourd'hui, l'état des lieux est bien loin de cette représentation glorieuse. Le dôme du monument est à moitié effondré, des morceaux de toiture et de fibres de verre recouvrent le sol. Toute l'enceinte intérieure, du grand hall à l'amphithéâtre, sont à la merci de la pluie, de la neige et du vent. Une équipe multinationale de restaurateurs tente de sauver ce qui reste des mosaïques qui recouvrent plus de 1000 mètres carrés. Laura Tapini, spécialiste de la conservation de mosaïques, est fascinée par ce lieu.
Nous essayons d'arrêter la détérioration. Nous travaillons sur les zones les plus en danger. Ici, les phénomènes météorologiques sont extrêmes. Ce matin même, nous avons dû nous sauver parce que c'était le déluge. Les mosaïques ici sont conçues pour un espace intérieur, alors que maintenant, c'est un espace ouvert. Nous voulons donc arrêter le temps.
Les mosaïques représentent des événements importants de l'histoire bulgare, mais aussi les grandes idées du Parti communiste. La restauration est donc un travail minutieux qui veut que chaque carreau de mosaïque soit nettoyé et fortifié, explique le docteur Thomas Danzel de l'Université technique de Munich.
Water infiltrating.
L'infiltration de l'eau, surtout en hiver, est le plus grand danger. Les pores du mortier se remplissent d'eau qui s'étend lorsqu'elle gèle et les mosaïques explosent.
L'effort de restauration est cher. Cette première étape a coûté près de 200 000 dollars. Et ce n'est qu'un début, avertit l'architecte Dora Ivanova, chef du projet.
Au cours de cette étape, nous essayons de sauvegarder les parties les plus fragiles et de mettre le cercle intérieur du monument à l'abri. C'est une course contre la montre et nous devons aller vite pour sauvegarder aussi le cercle extérieur de mosaïques, qui sont très précieuses aussi. Pour réussir, nous avons encore besoin de 32 000 euros.
Collect 32 000 euros.
BCP! BCP!
Скъпи социалисти,
C'est un appel aux dons, car le gouvernement bulgare ne fournit aucun financement pour ce projet de restauration. Le bâtiment lui-même est formellement public, mais il n'est pas entretenu. Il n'attire que les urbexeurs du monde entier et le Parti socialiste bulgare qui y tient un congrès annuel.
Le bio sera-t-il le nouvel Eldorado de l'agriculture roumaine? Le pays a été le grenier à blé de l'Europe entre les deux guerres. C'est la cinquième surface agricole du continent. Mais pour l'instant, selon les derniers chiffres d'Eurostat, seulement 2,4% de cette surface est consacrée à l'agriculture biologique. Ça pourrait changer. L'époque est à la consommation locale et l'Europe de l'Ouest constitue un débouché naturel pour ces produits roumains. Benjamin Ribou est allé à la rencontre d'une de ces fermes qui a fait le pari du bio dans l'ouest du pays, à Birda, près de Timișoara, un pari à grande échelle.
Nicolas Lefebvre a 40 ans et vient de Namur. Installé en Roumanie depuis une quinzaine d'années, il fait ses premières armes dans l'agriculture conventionnelle avant de décider, avec le soutien de ses deux patrons belges eux aussi, de convertir au bio l'exploitation qu'il gère depuis près de 10 ans à Birda. La conversion se fait en 2015. C'est une grosse ferme d'un seul tenant, ce qui est rare. Elle s'étale sur près de 1800 hectares, dont 1600 sont cultivés.
On est en train de trier notre récolte d'avoine bio 2020. Ça va essentiellement partir en Allemagne. Et c'est de l'avoine qui part directement en floconnerie. Donc c'est les flocons d'avoine bio que vous allez retrouver dans votre muesli, dans toutes ces préparations de petit déjeuner.
Nicolas Lefebvre et ses employeurs ont pris la décision radicale de passer toute l'exploitation en bio d'un coup pour être au-dessus de tout soupçon. Europe oblige, il y a bien sûr des subventions, mais la démarche était osée dans un pays où l'agrobusiness est roi. Autre souci de taille, l'image du pays.
On doit se battre avec tous nos nouveaux clients pour montrer patte blanche, parce que malheureusement, il y a certainement encore des choses pas nettes qui se font ici. Très peu, mais suffisamment pour entretenir un peu une mauvaise réputation du pays. Donc tous les clients sont venus voir la ferme. On est évidemment certifié comme tout agriculteur bio européen avec un label le plus répandu en Europe. Mais à côté de ça, on a des certificateurs suisses, on a des certificateurs allemands qui viennent, on a des Français, on a des Roumains. On a entre 3 et 5 contrôles par an, aussi bien de visu dans les champs qu'en comptabilité, que des analyses de produits. Les collègues français ou belges vont être analysés de manière tout à fait aléatoire. J'en connais qui ont été analysés une fois en 5 ans. Nous, chaque culture, chaque année, est prélevée, échantillonnée par la direction agricole, envoyée dans un labo en Allemagne.
Un bio ultra contrôlé dont les marchés se trouvent principalement à l'ouest de l'Europe. Strasbourg n'est qu'à une journée de route. Une relative proximité qui modifie aussi la perception du local, selon l'agriculteur. On retrouve Nicolas devant un cultivateur, une machine avec de grandes dents, en train de couper des herbes sur un futur champ d'avoine.
On laboure plus sur la ferme pour essayer de garder un mulch vivant en surface. On essaie en fait de garder un profil un peu plus naturel du sol, c'est-à-dire pas retourner tous nos débris végétaux dans le fond du labour. Donc il y a toujours de l'activité sur les champs. Si c'est pas la culture, c'est un engrais vert, c'est où on laisse les mauvaises herbes s'installer, on les contrôle avec des moutons, on les contrôle avec un broyeur. On essaye d'éviter d'avoir une terre qui est toute noire et quelque part qui est morte.
Plus de labourage, mais aussi moins de biberonnage des plantes, comme dans le conventionnel. Ici, on aide davantage le sol pour que ce soit lui qui nourrisse les plantes, notamment en intégrant des légumineuses, comme du trèfle ou de la luzerne, au milieu de cultures de céréales. Assister la nature plutôt qu'aller contre elle, la grosse différence entre conventionnel et bio, selon Nicolas Lefebvre.
Je me souviens des opérations parfois qu'on devait faire en conventionnel, que ce soit un traitement ou un apport d'engrais. Si la plante le demande et que le champ est boueux, il va falloir quand même qu'on rentre pour mettre de l'engrais. Alors on va détruire les chemins, on va faire des ornières dans les champs, on va détruire le matériel parce qu'on roule dans la boue, et puis on va revenir fatigué et tout trempé le soir ou la nuit venu. Mais voilà, on aura mis l'engrais sur la plante. Aujourd'hui en bio, si la terre elle est pas prête à accepter le travail, tu restes gentiment à la ferme en attendant que ça passe.
Autre aspect de son métier d'avant que l'agriculteur ne semble là non plus pas regretter, la manipulation des produits phytosanitaires, désormais de l'histoire ancienne à Birda. En 5 ans, le chiffre d'affaires est équivalent, voire légèrement supérieur par rapport aux années en conventionnel. Quant aux subventions européennes, elles aident à compenser le fait qu'une partie des terres, 15 à 20% par an, reste en jachère pour être régénérée.
Un reportage financé par le programme IMCAP de l'Union européenne. « Stockholm accueille jusqu'à ce dimanche 1er novembre la première exposition mondiale consacrée à l'ASMR. C'est du son, ce sont ces petits bruits de bouche, ces pages que l'on froisse, le pinceau sur une toile. Il y en a que ça horripile, d'autres que ça détend et certains y trouvent du plaisir. En tout cas, c'est un vrai phénomène à découvrir à l'Arc d'Est de Stockholm. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, une présentation très complète d'une heure et demie est disponible sur Internet. Frédéric Faux.
Comment décrire l'ASMR ? Le mieux, c'est peut-être de l'écouter. L'ASMR, ce peut être des bruits de bouche. Le son d'un spray. Des graines dans un bocal. Ou des chuchotements. Si vous regardez ces vidéos avec un casque confortablement assis sur votre canapé, voilà ce qui peut se passer.
ASMR, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est essentiellement une sensation. Des gens sentent des picotements au sommet de leur tête qui descendent dans le cou et le dos, comme lorsqu'on est devant un orchestre qui joue crescendo et qui vous donne le frisson. D'autres ne sentent rien ou une relaxation profonde. L'ASMR n'est pas 100% intellectuel ou 100% charnel. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'aborder l'ASMR comme un champ créatif, quelque chose qui transcende les cultures et le langage, et qui est devenu l'un des importants mouvements de l'Internet aujourd'hui.
James Taylor Foster est le commissaire de la première exposition au monde consacrée à l'ASMR et qui se tient au sein du musée d'architecture de Stockholm. Pour convertir ce phénomène né sur Internet dans un espace physique, il a imaginé un écran très futuriste.
Il faut enlever ses chaussures pour entrer dans l'exposition, car on a un traversin qui fait 1 kilomètre de long, qui monte, descend, s'enroule sur lui-même. C'est comme être à l'intérieur d'un cerveau, donc vous pouvez vous relaxer, regarder les gens, les œuvres, et peut-être éprouver quelque chose que vous n'avez jamais ressenti avant.
C'est là, sur ce traversin, que les visiteurs s'installent, casque sur la tête, pour regarder des écrans suspendus au plafond. Le mouvement artistique est né en 2009, quand une Anglaise, surnommée Whispering Life, a commencé à poster sur YouTube des vidéos où elle chuchotait.
Hello. I thought that I'd make some videos of me whispering.
Depuis, il se divise en deux principaux mouvements. Il y a d'abord l'ASMR non volontaire, c'est-à-dire des vidéos qui ont un effet relaxant sans le vouloir. Ce sont souvent des personnes qui accomplissent des tâches minutieuses, comme assembler une maquette, faire de la gravure, en décrivant leur travail. La vedette du genre, c'est Bob Ross, un animateur télé américain des années 80 et 90, qui donnait des cours quotidiens de peinture sur un ton particulièrement bienveillant.
A nice even distribution of paint all the way through the bristles. And let's go right up here. And we'll take this old brush and just make little X's, little crisscross strokes.
Ces vidéos disponibles sur Internet sont devenues cultes. James Taylor Foster.
A whole new audience.
Un tout nouveau public s'est reconnu dans son travail car il brosse la toile, il la gratte avec son couteau. Mais plus important encore, il y a sa personnalité très douce, gentille, pleine d'informations positives et d'empathie. Et être assis en ce moment pour regarder un de ces épisodes juste à côté de la vraie peinture, c'est la première fois qu'elle quitte les États-Unis, c'est une expérience spéciale.
Is a really special experience.
Et puis il y a les vidéos faites dans le but intentionnel de provoquer l'ASMR, cette réponse des sens.
Les artistes ASMR créent des sons, des mouvements pour vous relaxer. L'ASMR a un sens dans le monde dans lequel nous vivons, cette société ultra accélérée. Il nous permet de ralentir, de nous concentrer sur notre écoute et au final nos sensations.
Les vidéos les plus populaires cumulent des centaines de millions de vues sur Internet. Un phénomène qui n'a pas échappé aux grandes marques qui se le sont appropriées, comme Apple ou ici IKEA.
Welcome to IKEA ASMR, or as we like to call it, oddly IKEA.
L'exposition a été perturbée par le coronavirus, mais devrait accueillir le public jusqu'au 1er novembre. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'en Suède, une présentation très complète est disponible sur Internet.
Accent d'Europe à la réalisation Victor Hull. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.